Fred Savard avec vous pour ce 30e épisode de La Balado. Très heureux de vous retrouver et de retrouver des gens que vous avez, en partie des gens que vous avez déjà entendus plus tôt cette saison. Vous vous rappelez de cet épisode sur les perturbateurs endocriniens où, après avoir fini d'écouter l'épisode, beaucoup d'entre vous, dont moi, on est allé mettre au recyclage nos plats de plastique et on a détruit nos micro-ondes. Alors, c'était un partenariat avec l'INRS. Et là, on retrouve Valérie Langlois, qui était là donc pour cet épisode-là et qui, aujourd'hui, va nous accompagner en compagnie de Jérôme Duprat, que vous connaissez si vous êtes fan des Cowboys fringants, mais que vous connaissez peut-être si vous êtes dans les milieux universitaires, parce qu'il est prof à l'Université du Québec en Outaouais. Et il est à la tête d'une chaire de recherche. Et on va parler de ça, en fait, des travaux que Valérie Langlois et Jérôme Duprat mènent sur l'ADN environnemental. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Plein de choses que j'ignorais totalement. Et des applications qui pourraient découler, qui vont découler de ça et qui risquent d'avoir des impacts très importants sur des projets industriels, sur, évidemment, la transition écologique, sur plein de choses. Et Godefroy Laurendeau sera avec nous, évidemment, pour toute sa crédibilité de bachelier en biologie. Et parce que, vous le savez, à chaque premier épisode de chaque mois, normalement, c'est God qui est là. Alors là, il m'a accompagné pour cet épisode, donc, avec l'INRS et Génome Québec. Voilà. Alors, c'est le menu pour aujourd'hui. L'épisode n'est pas très long. Ça aussi, ça fait du bien, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis on est dans les sciences, un domaine qui est moins fréquenté par la balado. Fait que je suis toujours content de pouvoir le faire parce que je sais que ça plaît à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Alors voilà, je n'en dis pas plus. Je vous retrouve avec cette belle brochette d'invités. Voilà, c'est ce qui nous attend pour l'épisode 30. Bon épisode tout le monde.
Bonjour!
Valérie Langlois, encore à la balado?
Mais oui, ça me fait plaisir de revenir.
Ben oui, je sais, vous savez que vous payez très cher pour être ici.
Hey, non, c'est
pour faire de la mobilisation de connaissances.
Absolument, non, c'est un bon prix.
Ça a été tout un succès la dernière fois avec les perturbateurs. Oui, je vous le dis. Beaucoup de beaux commentaires. Et là, on accueille Jérôme.
Salut.
Jérôme Duprat.
Oui.
Très content que vous soyez là.
Pareillement.
On vous présente comment aujourd'hui?
Je suis professeur à l'Université du Québec en Outaouais et je suis titulaire d'une chaire de recherche en économie écologique.
En économie écologique?
Oui. Comment bien se développer, créer de la richesse, mais en respectant la biosphère, okay. La justice intertransgénérationnelle.
OK. Ça fait beaucoup de buzzwords, ça, dans une phrase.
Oui. Exactement. C'est pour ça que j'ai une chaire.
Il est bien assis dessus.
À la maison, on prend des notes. Et vous, Valérie, on vous présente comment?
Oui, moi aussi, j'ai une chaire de recherche du Canada en éco-toxicogénomique et perturbateurs endocriniens.
Et là, aujourd'hui, on parle de quoi?
Aujourd'hui, on parle d'ADN environnemental.
Oh!
On parle de biodiversité.
Est-ce que c'est un concept nouveau, l'ADN environnemental?
C'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus étudié. Et puis, avec la COP15 qu'on parlera tantôt, oui. Ça devient des outils très importants pour pouvoir faire le monitoring de la biodiversité là au Canada et ailleurs. Puis, on est en train de développer comme des kits qui sont plus robustes. Alors, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui.
C'est le projet iTrack DNA?
Oui, c'est ça. C'est un projet de plusieurs millions qu'on a reçu de Génome Canada, Génome Québec et Génome Colombie-Britannique de 12 millions pour un projet de 4 ans afin de développer, des kits, des outils en biologie moléculaire pour pouvoir caractériser, évaluer quelle espèce vit dans quel écosystème. Et ça, seulement en prenant, par exemple, un verre d'eau dans un lac,
oui.
On est capable de tout enlever l'ADN qu'il contient. Ah, puis après ouais. Ça, je suis capable de dire, il y a de l'esturgeon jaune ici, il y a du caribou, il y a de l'orignal, etc., etc. Fait que c'est quand même un outil qui est fort robuste, qui est puissant, mais jusqu'à maintenant, les gouvernements n'utilisent pas encore beaucoup parce qu'il y a trop de limites là encore dans la qualité des tests. Fait que là, nous, c'est pour ça qu'on a eu ce financement-là, pour pouvoir créer des tests qui sont robustes pour qu'on puisse se fier dessus, puis c'est ça, les résultats obtenus, ils n'ont pas de faux négatifs.
Est-ce que je vous ai présenté?
Je ne sais pas, c'est
je
vrai.
Je ne pense pas. Mais vous êtes là pour j'étais ça là, parce que je suis déjà tranquille. Largué. Je suis déjà largué.
Mais je n'ai pas de chaire de recherche.
Non, mais vous avez une formation scientifique.
Absolument.
Que parfois, vous je sortez.
Oui, je brandis
pour être crédible.
Quand ça me convient. Mais ça me fait penser, dans le fond, à quel point d'aller pêcher des esturgeons pendant des semaines pour voir s'il y en a dans un lac, c'est tellement plus compliqué que d'aller simplement échantillonner de l'eau. Ça me fait penser, moi, aux démarches qui avaient été faites pendant la COVID pour aller échantillonner les eaux usées dans les villes, finalement. Plutôt que d'aller voir les espèces elles-mêmes, on va voir des traces d'ADN de ces mêmes espèces-là.
C'est ça. C'est exactement le même concept.
Et on sauve, j'imagine qu'on est beaucoup plus efficace grâce à ce genre d'outils-là qui n'existaient pas encore.
Ben, c'est, comme je te dis, là, je pense que ça l'existait, mais c'était plus dans les laboratoires de recherche encore. Je veux dire, c'est pas encore des consultants qui vont vouloir, tu sais, qui vont pouvoir faire ça, ces analyses-là. C'est pas que c'est trop nouveau, mais c'est trop nouveau pour la population, par exemple. Mais au niveau.
C'est ça que je disais tantôt, si ça me semble, parce que je n'ai jamais entendu parler, mais bon, en même temps, je suis pas dans le milieu, puis qui suis-je? Pour prétendre que vu que je n'ai pas entendu
Fred
parler.
Ça va.
Non, mais je pensais pas que. En fait, je pensais pas que l'environnement avait un ADN.
Oui, oui. Et non, naïvement. C'est super intéressant. Ben oui, mais quand tu y penses, nous, on perd nos cheveux, on perd notre peau, on perd nos ongles puis tout ça. Mais c'est la même chose pour tous les animaux. Ils font des cacas, des pipis.
Ben oui.
Les poissons font des cacas dans l'eau, par exemple. Oui. Et puis, ils vont libérer comme ça leurs cellules mortes. Puis dans leurs cellules mortes, bien, on va avoir l'ADN. Même si la cellule est morte, l'ADN, elle se préserve encore. Ah, et puis après ça, on est capable de collecter ça. Puis c'est ça, il faut des outils super précis. Mais c'est ça, on est rendu là dans la technologie. En biologie moléculaire, on peut trouver l'ADN d'une espèce parmi toutes celles qui nous intéressent.
Corrigez-moi. Oui. Puis là, peut-être qu'on va trop creux, Fred. C'est ça que je me disais. Mais est-ce que ça veut dire que toutes ces espèces-là, il faut les avoir caractérisées une première fois indépendamment?
Très bonne question, absolument. C'est ça l'affaire. Puis c'est une des limites. C'est une des limites actuellement, là. C'est qu'on utilise une méthode qui s'appelle le metabarcoding. Et puis, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a eu plusieurs espèces qui ont juste une section de leur ADN, le même gène, qui a été séquencé là, pour le plus d'espèces possible. Mm-hmm. Puis ça, c'est bien parce que là, il y a beaucoup de ce gène-là qui a été séquencé, sauf qu'en même temps, il y a beaucoup de ce gène-là qui va être répétitif à travers certaines espèces parce qu'ils sont proches génétiquement. Fait que là, on ne pourra pas séparer, ça va être quelle espèce exactement. Nous, qu'est-ce qu'on fait dans iTrack DNA? On s'en va pas juste séquencer un gène. On fait tout le mitogénome au complet. Et puis là, je dis mito. Ouais. Mito vient de mitochondrie. Oui, parce que...
Et de mitomane aussi, mais je pense que c'est un autre... C'est pas la même, c'est pas la même souche. Hein,
mais la mitochondrie possède son propre ADN.
Ah!
Aha! Parce que dans une cellule, on a un noyau avec son ADN, l'ADN nucléaire. Mais dans la cellule, il y a des milliers de mitochondries. Puis ils ont chacun la même ADN, fait que c'est plus facile. Il va avoir beaucoup plus de l'ADN mitochondrial dans une cellule que de l'ADN nucléaire. Alors,
est-ce qu'on peut dire que la mitochondrie, c'est un peu comme la batterie, finalement, c'est là que les échanges énergétiques naissent dans les cellules?
Absolument.
On arrête de parler de batterie parce que Pierre Fitzgibbons va arriver.
Oui, il va nous financer.
J'ai très peur.
Ah, ben, c'est une finance, c'est bon! On peut continuer, alors!
Tantôt, on a mentionné la COP15, Jérôme?
J'y étais, c'était très, très stimulant. Puis on parlait de biodiversité. Et je veux pas... Pourquoi on parle d'ADN environnemental? Ouais. Je veux pas sursimplifier, mais notre siècle est caractérisé par deux grandes crises, les changements climatiques et celle qui est moins médiatisée, mais dont on commence à parler, dont à la COP15, c'est l'effondrement de la biodiversité. Donc, on estime qu'il y a à peu près 8 millions d'espèces vivantes sur Terre. D'ici la fin du siècle, il y en a peut-être 1 million qui vont disparaître en raison de causes multiples. Comment on a réagi à ça au 20e siècle? C'est de dire, bien, la nature, c'est important, on fait des parcs. Oui. Et là, ça se traduit par des volontés de protection du territoire. 17 % en 2020, 2030, c'est 30 %. Mais c'est un peu une stratégie de cloche de verre. C'est un peu dire, les changements climatiques, c'est une tonne de carbone, on remplace par une batterie. C'est très simple. Alors, de plus en plus, les scientifiques, mais aussi la société civile, les grandes organisations disent, mais pour bien protéger la biodiversité, il faut savoir où elle se trouve parce que c'est mobile, invisible, silencieux. Alors, on a besoin d'outils. On a besoin de caméras trappe, on a besoin de micros dans les écosystèmes, de satellites, mais aussi de traçabilité d'ADN. Et lorsqu'on vient trianguler plusieurs de ces indicateurs-là, on est capable de dire, bien, voici où se retrouvent, où se déplacent les espèces, et on est capable d'avoir des processus de production qui sont plus flexibles, dynamiques et moins statiques, ouais, cloche ouais. de fer 20e siècle. Fait que c'est vraiment, on est dans une trousse à outils qui vient compléter un portrait qui est vraiment dynamique et plus adaptatif.
Oui, puis ça, c'est un bon point. Je veux juste rajouter que c'est ça, l'ADN environnemental, c'est ça, c'est un outil, ça vient c'est un complément à ce qui existe déjà. Ça ne va pas remplacer ce qu'on fait. Puis ça, c'est un point important parce qu'il y a quand même des limites à la méthodologie, même si je vais être sûre à 100% qu'il y a du caribou, mais ben là, il vient d'où, l'ADN? Elle vient d'où? Elle vient du lac il y a une minute, il y a un kilomètre de la rivière. Tu sais, je veux dire, il y a des limites quand même à la méthodologie.
Fait que là, je vais poser une question de...
Mais si c'est un caribou forestier, on sait d'où est-ce qu'il vient, ça vient d'un enclos.
Non, mais... oui, c'est ça, Val-d'Or. Est-ce que des espèces disparues, est-ce que leur ADN pourrait être présent encore aujourd'hui? Donc, est-ce que ça nous donne une image du présent? Est-ce qu'on a des traces du passé environnemental ou en tout cas de la constitution de l'environnement qu'on étudie ou on est toujours en guillemets en réel?
Non, on pourrait être dans le passé si on s'en va dans les sédiments. Okay. Les sédiments, mettons, dans le fond du lac qui va aller se sédimenter. Là. Ouais. Fait que là, on pourrait. Mais là, on travaille toujours, évidemment, en colonne d'eau ou dans la rivière. Ouais, donc ou sinon, sur les feuilles d'arbre, on peut prendre aussi l'ADN dans l'air. Ouais, on peut prendre l'ADN du sol. Fait que ça nous aide à savoir que c'est plus... la temporalité est plus courte.
Ouais, je comprends.
C'est ça. Fait que, dépendamment des questions qu'on se pose, on peut ajuster...
Grosso modo, on est de quelques semaines à peut-être quelques mois. Okay, c'est un portrait qui est assez fidèle à la réalité.
Comme on dit en France, c'est un Polaroid... actuel.
Sure.
Vous avez produit un film? Est-ce qu'on peut écouter un extrait dans ça? Parce que j'ai une petite question.
Lorsqu'on a notre échantillon d'eau, on le filtre. Sur le filtre, on peut isoler toute l'ADN qu'elle contient. Lorsqu'on cherche, par exemple, le caribou, on va avoir des outils moléculaires qui vont pouvoir aller chercher l'ADN du caribou dans notre échantillon. Le PCR, qu'est-ce qu'il fait? Un peu comme la COVID, va chercher s'il y a de l'ADN de COVID. Bon, là, on va chercher l'ADN de caribou. Et puis, le PCR va nous permettre d'amplifier la réponse jusqu'au temps que nous, les humains, puissions le voir.
C'est beau l'économie minière, c'est beau l'économie forestière, mais à quel prix? À quel prix faut faire exploser le territoire? Est-ce qu'un arbre vaut la vie d'une espèce entière? Je crois pas.
Jérôme Duprat, en tout début dans votre présentation, vous parliez d'économie. À qui, comme ce film-là, là, se destine à qui?
L'intention, c'était vraiment d'expliquer en 7 minutes qu'est-ce qu'est l'ADN environnemental, comment on la mesure, puis à quoi ça peut nous servir. Par exemple, puis l'exemple qui a été le portrait dans le petit film, c'est par exemple si on a une mine qui va se construire, on pourrait utiliser l'ADN environnemental avant qu'elle se construise.
Oui.
On peut faire un suivi de toute la biodiversité. Après ça, pendant qu'elle est en fonction, on peut continuer à faire des suivis avec cet outil-là.
Oui.
Puis lorsqu'elle qu'elle ferme, on peut continuer à voir. Fait que ça peut nous permettre de réaliser si on est en perte de biodiversité, si on est en changement. C'est plus dans ce sens-là.
Je veux dire, moi, une société, c'est une question d'arbitrage. On a besoin de se développer. On veut de l'industrie forestière, on veut de l'agriculture, on veut du développement résidentiel, on veut conserver nos écosystèmes. Et présentement, on navigue à l'aveugle parce qu'on connaît très, très mal notre territoire. Voilà. Puis, un bon exemple, c'est la filière batterie. On parlait de batterie tout à l'heure, mais le projet Nordvolt, c'est le premier de 46 de ces projets de la filière. Puis là, on le met sur un site dont on connaît très mal la caractérisation écologique, l'importance du positionnement dans l'espace, quand on parle de la connectivité écologique en Montérégie, qu'est-ce que ce site-là va faire? Donc, si on n'a pas d'informations, à chaque fois, on vient recréer le même débat. Et là, je ne dis pas que c'est pas un procès sur la filière batterie, mais la transparence et la connaissance du territoire vient faire en sorte qu'on est en train d'opposer écologie et économie.
Oui, voilà.
Et l'information nous donnerait un choix ici de prendre des décisions plus éclairées.
Je voulais juste que ça nous permette d'expliquer votre démarche, je pense. C'est de comprendre qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Là.
Oui, puis c'est ça. Quand on veut caractériser un écosystème, souvent, on est en recherche d'espèces à risque ou des espèces rares ou des espèces invasives, dépendamment des questions de recherche. Mais ça, l'ADN environnemental peut nous permettre de trouver ça. Parce que, tu sais, je veux dire, tu vas, sinon, comme biologiste, tu vas rester tout un été à chercher, je sais pas, la rainette quand tu la trouveras peut-être pas. Ça va prendre moins de temps et d'énergie, d'argent de prendre des échantillons d'eau pendant sa période de reproduction, dans son habitat caractéristique pour pouvoir voir si elle fait partie du.
Nos amis du monde des affaires disent que tout ce qui se mesure peut s'améliorer. Fait que dans le fond, c'est ça qu'on. C'est, tant qu'à parler de biodiversité en général, ben là, c'est que tu es capable d'aller caractériser avec des outils pas trop chers, j'imagine, pour comparer à planter 3-4 biologistes à la recherche de grenouilles pendant un été de temps.
Je vais donner un exemple d'utilisation financière de l'ADN environnemental. Quand on parle de biodiversité, on a besoin des gouvernements pour faire les bonnes lois, de où protéger, quoi faire. On a besoin de la société civile pour évidemment partager des préoccupations, être là pour défendre cette voie-là. Et actuellement, si on veut renverser la tendance de l'effondrement de la biodiversité, il faut non seulement protéger 30-40% du territoire, mais il faut aller en restauration écologique. Il faut restaurer 30% de nos écosystèmes. Et pour ça, il n'y a pas d'argent au gouvernement pour le faire. On a besoin de mobiliser la finance durable. Les financiers sont là, ils ont des sous, mais lorsqu'on est, par exemple, un fonds de pension, on dit, ben, je suis prêt à investir, mais j'ai des commettants dont la retraite dépend de moi. Ça me prend un minimum de rendement. Ouais. Donc, je peux investir dans la protection, la restauration de la biodiversité, mais il faut me donner un actif financier. L'actif financier en changement climatique, c'est le crédit carbone. Donc, je vais investir pour décarboner l'économie. Il y a 30 ans, le carbone, c'était une vue de l'esprit. Aujourd'hui, ça vaut 75, 150 $ la tonne. Comment faire la même chose avec la biodiversité? Bon, on a besoin de définir un actif financier. Et les protocoles internationaux nous disent qu'on a besoin de regarder un territoire avec un minimum de 5 indicateurs qui vont nous permettre de suivre dans le temps. Au temps 0 et au temps 1, j'ai amélioré de 30% la constituante biodiversité et ça a une valeur. Et l'ADN environnemental donne un des piliers fondamentaux de ça. Donc, pour nous, c'est non seulement une piste pour connaître le territoire, pour empêcher des projets, mais c'est aussi la façon de mobiliser des capitaux pour transformer une économie qui détruit la nature à une économie qui protège, qui restaure, qui aménage correctement le territoire.
Ah, est-ce qu'on est en train de s'imaginer une bourse de la biodiversité?
Mm-hmm. D'ici 5 ans, ça existe. Ça, mais il y a des. En fait, là, le défi, c'est d'éviter de la concentration des pouvoirs, c'est d'éviter des injustices, une colonisation verte. Moi, je pense que c'est important de mobiliser des capitaux dans la bonne direction parce que de façon pragmatique, on a besoin d'argent pour faire les projets, mais il y a évidemment des zones d'ombre, des dimensions éthiques, morales pour lesquelles. Et c'est là que, comme scientifique, on a un rôle à jouer parce que la finance pour la finance, on est piégé avec ça c'est ce qui a fait en sorte que notre système carbone marche mal. On a créé des super bons mécanismes pleins de crédit carbone, mais on est encore en train d'émettre beaucoup trop pour ce que la planète est capable de faire.
Il fonctionne, en même temps, il ne fonctionne pas.
Ben, il fonctionne d'un point de vue financier, mais il ne fonctionne pas d'un point de vue biophysique.
Voilà.
Donc,
ce qui était l'idée à l'origine.
Oui, mais là, on doit refaire ce mécanisme-là, mais en ayant appris des erreurs de la question climatique, parce qu'on l'a quand même démarré en 97 à Kyoto. On est plusieurs décennies plus tard. Est-ce qu'on peut remettre ça sur les rails, mais en acceptant d'autres dimensions?
Puis on a une époque aussi où c'est extrêmement remis en question, le crédit carbone, par nos amis du Parti conservateur canadien.
Ça va être un sujet, Fred, sur lequel il va falloir se pencher pour vraiment amener bourse du carbone, crédit carbone.
Et vous allez vous en occuper, oui. La balado, parce que c'est votre mandat. J'ai l'impression que les animaux sauvages sont un peu... À part les chasseurs, j'ai l'impression qu'on s'y intéresse peu, en tout cas dans la société civile.
Ben, c'est une super bonne question, Fred, parce que quand on a pensé à ce projet-là au début, ça a été très difficile de trouver des partenaires intéressés aux animaux. Fait que là, je veux dire, à part les zoos, mais ils sont déjà comme enclos.
On parlait de cloche de verre tantôt, les zoos.
Non, mais je veux dire, ils sont quand même importants, ils ont leur raison de vivre.
Oui, on les salue.
Ce que je veux dire, c'est que c'était pas facile. Ça m'a pris un an et demi juste trouver des gens intéressés aux animaux, non seulement au Québec, mais aussi au Canada. Fait que oui, tu vas avoir peut-être faune et parc au gouvernement, mais sinon, c'est vraiment les premiers peuples qui sont ceux qui sont... qui ont le plus d'intérêt pour ces animaux-là, les vertébrés qui vivent là dans la forêt.
Mais est-ce que ça dénote pas justement comment la biodiversité, c'est un concept qui est mal compris?
C'est paradoxal parce que la biodiversité, c'est littéralement ce qu'on boit, ce qu'on mange, ce qu'on respire. Ouais. Puis même, c'est ce qui nous guérit ou ce qui nous expose à des maladies, les zoonoses. Fait qu'on est la biodiversité, mais c'est difficilement saisissable. Ouais. C'est des mécanismes complexes. Tu parlais tout à l'heure d'ADN, mais la biodiversité, c'est des espèces, des écosystèmes, des populations, des gènes.
Ouais.
C'est un petit peu la difficulté de mettre des carrés dans des cercles. Hein. On sait que c'est super important, mais après ça, donnons de valeur, donnons un bon règlement, puis c'est notre défi comme scientifique de traduire ça en politique publique, en quelque chose qui soit digeste et réconciliable.
Ouais. Mais tu sais, on voit quand même beaucoup d'intérêt à essayer de remettre la biodiversité dans les villes, de l'importance de remettre des arbres, remettre des plantes, laisser vos pissenlits, etc., pour attirer tout, puis de faire aussi des couloirs pour que les animaux se promènent dans la ville. Fait que tu sais, je pense que les gens sont là, il y a beaucoup d'intérêt.
Est-ce que les élus sont à la même place?
Ah ben, il faut, c'est de l'éducation, là. Les élus, ils changent là, tout le temps. Il faut éduquer là, le public et les élus.
Ici, j'ai une question, explication de la QPCR.
OK, non, tu veux vraiment que je te compte ça là?
Ben, okay, c'est parce que c'est dans votre plan de match, là.
Oui, mais vous n'êtes pas obligé de poser toutes les questions à des moments quelconques.
On voit des mots, on voit des lettres clés comme PCR.
Ouais, OK. Oui, ouais, le Q, c'est pas celui que vous pensez. Ça veut dire quantitatif. Fait que finalement, c'est une PCR qui est quantitative, qui va finalement...
Mais c'est quoi une PCR?
Une PCR, c'est une... Ben là, c'est le temps c'est en anglais, là, Polymerase Chain Reaction.
Vous savez qu'on n'est pas dans un congrès du PQ ici. On peut parler anglais.
Quoique Fred ait soupe au lait, lui aussi.
Oui, ça, c'est vrai.
ce que ça permet de faire, c'est qu'on est capable, en biologie moléculaire, de développer, on appelle ça des amorces, qui vont aller se lier dans un endroit très spécifique de l'ADN de chacune des espèces. Et puis, après ça, la machine va le faire amplifier à tellement, tellement de copies qu'on va pouvoir, après ça, le quantifier puis dire, oui, il y a tant de copies de cougars ou de Marthe d'Amérique.
C'est avec des tests comme ça qu'on détectait la COVID.
Oui, exactement. C'est ce que j'ai essayé de dire dans ma vidéo et j'ai dit ADN, mais c'est de l'ARN dans le cas de la COVID. Ouais. C'était une petite erreur de ma part.
On parlait de trousse tantôt, là.
Ouais.
Elle va se destiner à qui, cette trousse?
Ben, la trousse, comme présentement, là, j'ai vraiment beaucoup de gens qui me consultent, là. J'ai beaucoup des gens qui sont au nord du Québec, qui sont en train de délimiter des nouvelles aires protégées. Puis là, ils veulent savoir, OK, mais c'est quoi ma biodiversité?
Ouais.
J'en ai d'autres qui sont intéressés par la migration du saumon atlantique.
Ouais.
Et puis là, ils disent, OK, mais je veux savoir c'est quelle rivière? Tu sais, on pense savoir que ça va être là, tout ça. Ils sont où les frayères? Fait que là, dans ce cas-là, ben là, c'est ces gens-là qui... Fait qu'on va s'intéresser à ça. Fait que j'ai Hydro-Québec, j'ai plein de gens. Ça peut intéresser...
C'est puissant, là, cet outil-là.
Oui,
puis... Parce que je comprends.
Puis notre travail, nous, parce qu'on est en sciences sociales, c'est parce qu'on l'a vu souvent, d'excellentes technologies avec un potentiel de rupture.
Ouais.
La difficulté dans la capacité de changement organisationnel, hein, qu'on soit un gouvernement, tu parlais d'Hydro-Québec, quels sont les freins, les barrières, les leviers pour qu'une telle technologie devienne quelque chose qui soit opérationnel? Et juste un exemple très, très simple, ce serait de se retrouver devant une cour de justice où il y a une preuve qui est déposée qui vient de l'ADN environnemental. Est-ce que ce serait crédible? Est-ce qu'on peut accepter cette preuve-là pour renverser un projet qui est en cours, mettre une injonction de développement? Alors, ça a été un élément essentiel de notre projet. On a divisé le projet en quatre activités et il y en a une qui est destinée à la standardisation du processus. Et ça, c'est une première dans le monde. Au niveau canadien, il y a le CSC, un organisme indépendant qui va prendre tous les procédures, protocoles pour s'assurer que lorsqu'on vient déployer cette technologie-là, bien, on respecte une telle séquence qui soit par la suite standardisée, représentative et qui soit autorisée.
Oui, parce que vous pouvez vous imaginer que quelqu'un qui ne veut pas trouver certaines espèces dans un certain territoire ne pourrait ne pas le trouver.
Parce qu'il veut que son projet aille de l'avant.
Ah, ben là, c'est ça.
On nomme personne.
Non, mais ce que je veux dire, c'est pour ça que c'est important que comme Jérôme nous l'a dit, que les trousses, que le protocole soit standardisé.
Ouais.
Surtout si on s'en va en cours. Fait, au niveau du braconnage, c'est déjà utilisé, ça. On prend, par exemple, une chaudière là, derrière un coffre de taux. Ils vont prendre de l'eau pour voir après ça qui c'est quoi les poissons qu'il y a eu là-dedans ou les
sortes de bière.
Ah, ben là, l'ADN, la bière, OK.
est-ce qu'on pourrait penser que... Puis là, j'envoie des questions à la volée, là. que cette procédure puisse permettre éventuellement qu'on légifère sur la biodiversité, qu'on puisse donner des outils à des territoires, des États, des villes pour légiférer, pour en fait, ça devient un outil juridique pour favoriser la biodiversité?
Oui, un exemple très, très simple, ce serait le développement d'un territoire donné, sud du Québec, nord du Québec. Aujourd'hui, la preuve doit être faite par un promoteur, là, une évaluation environnementale, une évaluation d'impact. Donc, je fais ce projet routier de barrage, je vais impacter telle espèce. Le fardeau est sur le promoteur de montrer quels sont ces impacts-là. Ouais. Avec l'ADN environnemental et d'autres technologies, on pourrait renverser complètement le fardeau de la preuve en disant, ben voici, sur ce territoire, nous avons montré qu'il y a telle espèce à tel endroit, donc votre projet de facto va impacter de telle manière, on le refuse, on demande des aménagements, etc. Donc, c'est de la législation, mais c'est un regard complètement nouveau sur le territoire. Aujourd'hui, on est obligé d'y aller un petit peu à la loupe, au cas par cas, avec des outils de systématisation et les données satellitaires. Il y a plein d'autres méthodes comme ça qui pourraient compléter. On pourrait avoir un vrai observatoire territorial, un observatoire de la biodiversité, de nos forêts qui dirait, ben voici des écosystèmes qui sont pas en santé, qu'il faut restaurer. Voici des zones qu'on peut dédier au développement parce qu'on concentre des activités à certains endroits. Et c'est vraiment là l'enjeu de l'aménagement du territoire au 21e siècle. On doit plus aller dans une version de système ouvert où on peut tout développer, mais vraiment de concentration des endroits donnés, justifiés, dans un principe toujours là d'arbitrage entre les générations futures, la santé, les valeurs intrinsèques de la biodiversité et évidemment nos besoins de se développer.
Dans ces études-là, par exemple, j'ai découvert ça hier, même ça a été publié en 2022. Le ministère anciennement de la faune, des forêts et des parcs du Québec demande que l'inventaire pour les tortues au Québec lors de ces études-là soit fait par ADN environnemental.
Ah ouais?
Ouais!
Wow!
Ouais, j'étais contente. Ben je me suis dit, on a de l'avenir.
Est-ce qu'on doit savoir ce qu'on cherche? Ou tu peux dire,
on peut faire les deux. OK, il y a deux technologies. Celle qu'on parle aujourd'hui là, en qPCR, c'est vraiment ciblé aux espèces d'intérêt, OK? Parce que c'est vraiment robuste. Si on veut juste avoir...
Là, vous allez me dire quelque chose, parce que ça revient tout le temps, ce mot-là, robuste. Oh, oui. C'est comme quand les gens d'économie disent l'agilité.
Oui,
alors,
l'agilité, ça veut dire robuste. Se revirer de bord sur un 10 cents puis continuer à faire de l'argent. La robustesse d'expérience scientifique, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que ça revient tout le temps.
C'est vrai, ça doit être un anglicisme, puis je m'excuse pour ça.
Pas sûr, je pense pas que c'est un anglicisme, mais sauf que...
C'est là qu'on aurait le moins de faux positifs, le moins de faux négatifs. Là. Nous, on n'est jamais sûr à 100% de rien, mais là, on est sûr à le plus pourcentage possible. C'est très précis.
En anglais, ils disent robuste.
En fait, c'est précis et c'est précis à chaque fois. C'est que les chances que ce soit précis à chaque fois sont très élevées.
C'est ça, exactement. Tandis que l'autre méthode, qui est le metabarcoding, là, c'est plus un fishing expedition, OK? Où est-ce que là, on va prendre un vague d'eau.
Ça, je pense que c'est un anglicisme.
Non, je pense pas. Non, c'est du québécois. et là, je vais être capable de dire, voici toutes les espèces au complet dans l'écosystème. Mais, tu sais, je serais pas sûre à vraiment 100%. Il va falloir après ça que ceux qui m'intéressent vraiment, j'aille en qPCR pour aller les chercher, pour m'assurer que vraiment... elles sont présentes.
Est-ce que l'ADN peut être un outil intéressant pour mesurer la pollution d'un territoire?
Ben oui, c'est intéressant pour la pollution pour deux choses. Premièrement, quand on fait l'échantillonnage, on prend le même... Si je prends je vais revenir avec mon verre d'eau dans le lac, je peux prendre une fraction de l'eau pour aller regarder c'est quoi les contaminants dans l'eau, puis l'autre fraction pour le filtrer pour trouver mon ADN. Fait qu'on peut, dans le même échantillon, voir les deux choses, tu sais, pouvoir essayer de voir un lien. Ceci dit, comme on disait tantôt, on peut aussi aller voir dans des endroits où ce que c'est pollué versus des endroits pas pollués pour pouvoir voir la différence ou la perte de biodiversité. Fait que ça peut être utilisé dans ces...
Un autre élément très important, c'est au niveau des espèces invasives. Donc, dans le système Saint-Laurent, il y a 180 espèces invasives, de savoir où elles se retrouvent, c'est quoi leur migration, la carpe asiatique, est-ce qu'elle est rentrée dans des systèmes hydrologiques différents. Donc, c'est pas une pollution directe moléculaire, mais c'est une transformation territoriale.
Oui, c'est ça. Puis on peut même, dans les cales de bateaux, là, parce qu'on aime ça consommer ici au Canada, fait qu'il y a des gros bateaux qui viennent d'un pays à l'autre, qui contiennent toutes ces... Bon, anyway, ils mettent de l'eau dans les cales de bateaux, puis là, elles viennent d'un autre pays, fait qu'on peut tout simplement... prendre un échantillon de cette eau-là puis dire, OK, non, elle est correcte, elle ne contient pas d'organismes qui viennent d'un autre pays, où on la traite, puis après traitement, on peut regarder si T'sais, c'est propre, là. Ouais. Fait que, wow. C'est ça, il y a vraiment beaucoup
d'a...
Oui, mais tu sais, tu peux même aller au resto, puis regarder, c'est, est-ce qu'il dit c'est de la morue, tu prends un petit échantillon, tu me l'amènes, moi, te le dire si c'est de la morue, moi. Parce que dans mon large, je vais être capable de te le dire.
J'y arrivais. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, aller dans une... Dans... En fait, je pose pas la question. Visiblement, on pourrait rentrer dans une boucherie.
Oui.
Et aller voir si le cerf qu'on pense nous vendre et non pas et du bœuf. On pourrait savoir avec l'ADN.
Absolument, oui.
Oh, oui. Il est bouché sur la rue Mont-Royal qui tremble présentement.
Ah, puis l'autre dimension du projet, je saute complètement du coq à l'âne, mais il y a une
est-ce
dimension...
Est-ce qu'on pourrait s'assurer
que c'est un coq? un
hybride. Mais c'est de travailler sur des drones. Valérie, vous parliez des verres d'eau pour aller chercher les différents échantillonnages, ouais. Mais lorsqu'on est en territoire plus rural, reculé, puis on veut connaître ça, il n'y a pas nécessairement de chemin, comment s'y rendre. Donc, il y a tout un système de drones, d'automatisation, et on travaille avec des gens des Premières Nations aussi pour connaître. Nous, on a une vue très scientifique occidentale. Ouais. Là, c'est à tel endroit dont on allait chercher. Mais on travaille aussi avec eux pour savoir dans les savoirs traditionnels où se trouvaient les routes de telles espèces et où on devrait aller voir si l'espèce se retrouve et comment ça peut changer avec les changements climatiques ou d'autres.
Ça doit être relativement nouveau.
Les collaborations se font depuis longtemps. Ce qui est en train de changer, c'est vraiment la co-construction, le co-design et surtout partir des besoins des Premières Nations. C'est pas d'arriver en disant, moi, j'ai une science à faire, je vais la faire, je vous envoie l'article scientifique après, merci.
Ouais,
ce qui a été fait, par exemple, dans notre projet, puis c'est pas juste nous, il y en a plein qui font un travail comme ça, bien, c'est de dire, bien, on a du budget pour faire des kits pour 100 espèces.
Ouais.
Bien, allons voir les communautés et demandons-leur, c'est quoi les espèces qui sont importantes pour vous, que vous aurez besoin de tracer pour la chasse, parce que c'est des espèces menacées, à statut culturellement importantes. Et on a fait cette enquête-là qui a finalement, qui a été l'entonnoir pour nous aligner sur certains types d'espèces. Donc ça, c'est un exemple de co-construction de la recherche qui, au final, va pouvoir faire un bon transfert de connaissances. On le fait là avec vous pour parler au public,
tout à fait.
Mais cette science-là doit devenir post-normale. Elle doit faire partie d'un système social plus large.
Oui, puis pour revenir au film, l'autre bon acteur qui est beaucoup meilleur que moi, c'est Benoît Croteau.
Oui, on
qui,
a entendu lui, à la fin.
Oui, c'est ça. Lui, il est un membre de la communauté de Picogan. Puis lui, il est assis depuis les premiers jours là, à bâtir ce projet-là, même avant le financement. Là. Fait que on était là vraiment avec Benoît et d'autres à la table, en train de co-créer le projet ensemble. C'est pas quelque chose qui avait été décidé par nous. Puis après ça, on leur a dit, voici qu'est-ce qu'on fait. On a fait ça ensemble, en équipe.
Autre question naïve de ma part, est-ce que vous devez absolument toujours garder en tête de multiplier les applications quand vous développez une technologie comme ça? T'sais, on parlait tantôt de dépister les possibles fraudes, le braconnage, tout ça. Est-ce que ça fait partie de votre travail pour vous assurer que le projet va être bien financé comme il le mérite et qu'il va avoir la réception qu'il mérite?
Peut-être au début, il a fallu qu'on fasse ce travail-là pour pouvoir trouver des partenaires, pour pouvoir le commencer. Mais maintenant, une fois qu'on a les sous pour faire le kit, je vais prendre, je cherche tout le temps les poissons, mais j'ai tout le temps l'esturgeon qui vient en tête, je sais pas pourquoi.
La perche chaude.
Perche chaude, on le fait.
Que j'adorais manger jeune en pêche à la glace et qui n'existe à peu près plus.
Ben non, la perche chaude, il y en a. Il y en a partout. Moi, en tout cas, mes kits d'ADN me disent qu'il y en a beaucoup. Bon. Fait que, peut-être que tu voulais dire
pris,
le doré jaune.
Non, la perche chaude. Okay. Oui, mais on pêchait à la pêche à glace.
Oui.
Mais est-ce qu'on peut se faire un filet de ADN?
Non, ça va.
La perche chaude.
Mettons la perche chaude.
OK, bon. Là, tu m'as fait perdre mon fil.
Non,
là.
Je disais, est-ce que vous avez, en tant que chercheur, vous devez aussi réfléchir à des applications qui vont sortir dans le fond du domaine de la recherche pour s'assurer d'avoir les budgets conséquents et d'avoir les coûts des franges?
Ben, en fait, c'est dans les choix d'espèces. Parce qu'une fois qu'on a nos espèces et qu'on développe le kit, il va fonctionner pour peu importe le but après. Fait que ce qui était important, c'était au niveau stratégique, peut-être, si c'est ça que tu veux, c'était d'avoir des kits pour des espèces qui allaient être d'intérêt pour, par exemple, le gouvernement des gens qui pourraient, après ça, être intéressés par la méthodologie. Ouais. Mais c'est ça qu'on a fait. C'est pour ça qu'on a des gens de Parc Canada, d'Environnement Canada, de tous les gouvernements, des OBNL, des compagnies privées. T'sais, on a tout ça dans le projet pour être sûr qu'on faisait pas des kits sur nos animaux préférés, mais pour des espèces qui allaient être d'intérêt pour plus tard, pour continuer à les...
Je fais mon petit étude éditorial sur l'importance de financer la recherche.
Oui.
Nous, on est financés par des fonds publics.
Non, mais Jérôme, c'est important qu'on en parle parce que j'ai l'impression que dans la tête des gens, il suffit de donner de l'argent à des scientifiques puis ils vont faire de la science. Un peu dans l'éther.
Ben, ça en prend aussi. Oui, il faut, faut rêver, il faut repousser les limites. Tout à fait. Mais l'important, c'est de se dire que ben, cette science-là a une utilité sociale, qu'elle soit à long terme ou à court terme, et surtout qu'elle soit en données ouvertes. Oui. Donc là, ces kits-là qu'on fait, après ça, si, je n'ai rien contre une industrie quelconque qui voudrait développer ses propres kits, mais c'est breveté, c'est utilisé à l'interne, c'est commercialisé. Nous, ces kits-là, ils sont publics, ils sont ouverts, et dans une séquence de science, une science fondamentale comme nous la développons, qui peut ensuite être prise dans des applications plus commerciales où des industriels vont très légitimement investir pour leur propre application. Voilà. Donc, ces sous-là qu'on a reçus, ben, c'est destiné à largement, c'est mieux comprendre la biodiversité, tisser des liens avec les Premières Nations, développer une compréhension du milieu, standardiser le processus. Et ça revient, ben, je faisais l'éditorial on questionne ça aussi à l'université. Est-ce que c'est si important? Dans les budgets, c'est toujours débattu. Et je pense que c'est vraiment une mission sociétale de continuer à soutenir les universités.
Est-ce que vous êtes des pionniers, cette technologie-là? Est-ce que ça se fait ailleurs?
Ça se fait dans beaucoup d'endroits, je dirais. Puis j'en ai parlé tout à l'heure, la caractéristique du projet, c'est qu'on essaie de standardiser le processus.
Ça, c'est nouveau.
On est le premier pays dans le monde qui va se doter d'un processus standardisé. Après, est-ce qu'il sera utilisé? On ne le sait pas. Ouais. Mais au moins, on donnait l'exemple tout à l'heure de se retrouver devant une cour de justice, de pouvoir faire des débats publics qui sont argumentés sur de la science, qui vont avoir des référents dans des règlements, dans des lois. Ça, c'est vraiment une innovation propre au projet. Ensuite, la technologie, il y a plusieurs laboratoires dans le monde. Il y en a plusieurs au Québec aussi avec des super scientifiques.
Et ailleurs dans le monde, est-ce que vous sentez... J'imagine que vous parlez entre vous. Vous avez des, vous avez des lieux, vous sentez un intérêt ou on observe ce qui est en train de se passer parce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans dans la standardisation, entre autres.
Oui, absolument. Puis, garde, je m'en vais en Espagne la semaine prochaine, dans 10 jours, pour aller justement enseigner tout ce qu'on a fait là, dans les trois dernières années déjà du projet. On a créé aussi un cours, on n'en a pas parlé, mais on a toute une...
on peut le faire.
aussi une partie de certification où on a développé, c'est ça, un cours à différents volets, mettons.
Qui se destine à qui?
Que ce soit les gens qui vont juste échantillonner sur le terrain, voici toute la méthodologie. Ouais. Les gens qui vont analyser dans le laboratoire, voici toute la méthodologie. Les gens qui vont juste recevoir les données. Qu'est-ce que je fais, moi, avec non, présence, absence? Bon. OK, ben là, on va montrer. Puis après ça, les gens qui sont plus en gestion, ben c'est comment ça coûte, comment on gère ça. Fait qu'on a comme différents volets qu'on a construits. Puis là, c'est ça, je vais à Séville donner un cours où ce qu'on a plein de gens à l'international se sont inscrits. Puis on va donner le cours. On l'a donné l'année passée aussi à Dublin.
Moi, j'ai hérité de la conférence à Drummond dans 10 jours. On voit la dynamique dans le projet.
C'est ça.
C'est votre bilan carbone est pas mal meilleur.
Exact, je vais en baisser.
C'est ça. Oui, c'est sûr qu'on peut pas réussir à tout. Être bon partout.
Non.
Ouais.
Quand vous parlez de standardisation, est-ce qu'en réalité, on s'en va vous viser une espèce de saut pour dire voici, telle recherche a été faite avec la méthode ISO, je ne sais pas quoi, ou est-ce que c'est ça qu'on a en tête quand on parle de standardisation?
Le CSE, ça, c'est ceux qui font les normes pour nos réfrigérateurs, puis pour tout. Fait que c'est avec eux qu'on travaille. On a déjà fait 2 normes et puis on est en train de chercher le financement. Et je parle en public, présentement. Il nous manque à peu près 80 000 pour pouvoir payer pour le financement pour la 3e norme qui est vraiment sur, c'est ça, comment faire l'échantillonnage, etc. Fait que pour que ça devienne standardisé. Dans les normes, on n'est pas en train de dire, tu sais, vous devez faire ça, mais on va expliquer, c'est très important de faire ça, et pourquoi. Fait que là, ça donne aux gens la possibilité de comprendre l'importance de chacune des étapes, puis après ça, ils pourraient mettre le saut, genre, on a suivi telle méthodologie.
Ouais. Donc, dans le monde de la recherche, il n'y aura pas trop d'importance parce que si on veut faire une nouvelle démonstration, publier un article, on n'a pas besoin de standardisation. Non. Quand on est dans des projets qui ont un impact social, qui ont une référence légale, bien là, ça va être important. Ouais. Ben, ça va donner un poids supplémentaire.
Les gens qui nous écoutent, qui aimeraient peut-être...
Yes.
Pourrait-il échantillonner?
Absolument, oui, on peut faire ça. Là. Comme je vous le disais, on en a plusieurs.
Non, mais il y a des gens qui nous écoutent, ça peut être des élus de municipalités, de villages, de territoires ruraux, whatever. Là.
Est-ce qu'on peut aller sur le panier bleu et en acheter?
Avant
qu'il ferme.
Non, c'est ça. Non, valérie.langlois@inrs.ca. Envoyez-moi un courriel et puis on va vous gérer ça, projet.
On va, de toute façon, mettre les liens dans l'infolettre.
Je fais un aparté, là encore, sur l'importance de la science citoyenne.
Oui.
C'est bon.
Non, mais il y a quelques années, des collègues avaient lancé un projet Adopte un lac. C'était pour monitorer les algues bleues et vertes dans les plans d'eau du Québec parce qu'il n'y a pas de capacité gouvernementale. On n'est pas capable de savoir quels lacs sont affectés ou non. Donc, on a besoin des gens qui sont prêts, qui étaient prêts de ces lacs-là pour recevoir un petit kit par la poste pour prendre l'échantillon d'eau, l'envoyer au laboratoire. Donc, c'est vraiment c'est des mains, des bras qui sont capables d'aider à connaître le territoire. Fait que c'est vrai. C'est essentiel. On peut parler de drones, là, c'est beau de la technologie, mais au final, c'est vraiment les experts du terrain, ce sont les gens qui l'habitent. Là.
Voilà. Hey, je pense que...
j'ai une question, Fred, vous couperez ou pas?
Je vais l'enlever, ça.
Tu m'énerves.
Est-ce que vous imaginez un futur prochain dans lequel il y aurait...
Sans animaux, dans ce
des traces, tu sais, des traces de vos travaux dans les nouvelles, dans ce qu'on regarde aux nouvelles? Là, en ce moment, on en parle, c'est en laboratoire. Vous pensez à de la standardisation, il y a des congrès, mais est-ce qu'on peut s'imaginer que notre public, ceux qui écoutent la balado, puissent, aux nouvelles, voir des traces de cette science?
Oui, j'en parlais tout à l'heure, la filière batterie, Nordvolt, on déchire nos chemises sur la place publique pour le petit blongeau, des questions de biodiversité, qu'on est à un pas de pouvoir utiliser ces technologies.
Élus, j'imagine que c'est bien beau mais développer des outils comme les vôtres, il faut que les élus les comprennent, aient envie de les utiliser, il faut que ça fasse son chemin vers les officines. Yep. Est-ce que ça, vous l'avez en tête? Est-ce que c'est une difficulté auquel vous avez réfléchi? Parce que j'imagine qu'il y a cet enjeu-là aussi. On a bien beau développer les bons outils. Si les élus embarquent pas, ben ces outils-là, ils vont rester un peu en vase clos.
Ben, en tout cas, je peux te dire que c'est ça, environnement, au ministère de l'Environnement, le Faune Parc du Québec, ils sont en train d'utiliser ça. Ils sont au courant. Puis on travaille ensemble pour justement que ça devienne de plus en plus inclus là, dans les études de cas ou peu importe. Là,
parce que je pense à Nordvolt qu'il y a quand même une dimension politique qui, des fois, escamote souvent.
On est prêt à mettre 7 milliards dans une usine, mais on ne met pas les sous conséquents pour connaître notre territoire.
Voilà, c'est ça.
Donc, tantôt, vous parliez de est-ce qu'il y a un appel politique, une oreille? Oui, il y en a une, mais est-ce qu'elle est du même calibre? Est-ce qu'elle a même échelle de gouvernance que d'autres priorités? Non. Voilà. Ça, c'est la réponse.
Hey, merci, Jérôme Duprat. Merci.
Merci à vous. C'est très agréable.
Merci. Puis Valérie et God, nous, on va se retrouver dans un mois.
Oui,
pour
absolument.
Pour un autre épisode.
Ah oui.
Sur les pesticides, je crois.
Oui, je vous aime tellement, je reviens.
Fini. Je pensais que c'était fini, les pesticides. On va en parler, OK? Hey, merci! Alors, grand merci à Valérie Langlois. Encore une fois, un épisode passionnant. Merci à Godefroy Lorando. Merci à Jérôme Duprat. On s'était croisés quelques fois. Dans mon ancienne vie de Zapartis, dans des spectacles bénéfices, mais j'avais jamais rencontré encore le scientifique. Alors, merci Jérôme, très très belle rencontre. On va terminer en musique, bien sûr. Là, je vous écœure plus après avec les Talking Heads, mais j'ai encore passé la semaine à en écouter. Puis il y a une chanson des Talking Heads qui est tellement, je trouve, dans la thématique qu'on a abordée aujourd'hui, évidemment pas de l'ADN environnemental, mais c'est cette chanson, Nothing But Flowers, que j'ai mentionné rapidement la semaine dernière sur le dernier album, l'album Naked, une chanson que je me rappelle avoir dansé là-dessus à l'Alcatraz à Drummondville, un bar qui n'a pas duré longtemps. Alors, si jamais vous étiez là cette journée-là où Nothing But Flowers a joué, écrivez-moi! Mais voilà, ça me rappelle encore, j'avais peut-être 17 ans, ça me rappelle cette belle époque. Et c'est une chanson qui est vraiment très David Byrne, là, le chanteur des Talking Heads, parce que, dans le fond, elle inverse un peu la situation actuelle, c'est-à-dire qu'il découvre un endroit où la civilisation a disparu au profit de la nature. Et il est un peu inquiet dans son ton, dans sa façon de chanter, vous allez voir. Et il y a Johnny Marr, pour les fans de Smith, il y a Johnny Marr qui joue de la guitare et vous allez... Sachant ça, bien reconnaître la façon de jouer très, très unique de Johnny Marr. Alors voilà, dernière fois, dernière fois pour la saison 6 que je vous achale avec les Talking Heads, mais c'était trop d'actualité avec l'épisode qu'on vient de parcourir. Alors voilà, allez, bonne semaine tout le monde. Déjà très hâte de vous retrouver la semaine prochaine.
Nobody paid much attention. You got it.